trees are green.
Please evacuate this building. Please evacuate this building.
What am I meant for you?
Il faut se retirer les doigts du nez. Oui, c'est obligatoire.
Ouais, on est reçu. Ça m'écoute là-bas ou pas?
Eh hey, oh!
Voix en expansion. Un magazine pour discuter, échanger.
Informer, dénoncer.
Sensibiliser, balancer.
Et mémoriser.
C'est qui d'après vous?
Voix en expansion.
Attention, les voix s'étendent,
s'épandent et s'accroissent,
se développent, augmentent,
se diffusent et se propagent sur le web,
sur les ondes et dans l'espace. Attention, voix.
Voix en expansion.
Un magazine autoconstruit par l'association La Malle aux Libertés.
Ouh, ça c'est de l'information. C'est clair, c'est précis. Je vous tire son chapeau, madame.
Eh bien, donc, nous sommes toujours dans le cadre du FestiWild. Et tout de suite, nous allons écouter et retransmettre, bien sûr, pour nos auditeurs, un fabuleux concert, Annette.
Un fabuleux concert de Johnny et Jean, qui sont des chanteurs d'oiseaux et donc qui donnent une conférence ornitho décalée.
Eh bien, on va laisser place à ces maîtres du chant. Et souvent, les oiseaux, on va le voir, ont inspiré donc des grands compositeurs. Laissons place à Jean et Johnny et merci à FestiWild.
La conférence ornitho décalée. Question. Quel est l'oiseau le plus présent sur Terre? La mouette. Et c'est adhérent à la LPO. La mouette, tout ça, un goéland argenté.
La mouette. La mouette.
Quel est l'oiseau le plus présent sur Terre?
Le goéland argenté.
Non plus. La poule.
La poule. Oh là 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 là, on est mal. C'est une heure, hein? Ouais.
Il y a 55 milliards de poules sur Terre. Selon la FAO,
The Food and Agriculture Organization,
les stocks mondiaux sont de 101 000 millions de kilos de poulet.
Gabus, domestiqué. Il y a 6 millions d'années à partir du coq banc qui va de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
6 000 ans.
Ah ouais, tu veux voir, je vois loin, bonjour, viens. Ah ouais, c'est
101 000 millions de kilos de pilon blanc, cou, crête, foie, gésier, aiguillette et même nuggets. Un énorme marché, et lorsqu'il y a un marché, il y a les Américains.
Absolument.
Des chercheurs américains se sont intéressés au message codant du cri de contact de la poule. Lorsqu'une poule mène ses poussins et qu'elle trouve une proie, elle leur en informe par un petit cri d'appel. Si la proie est de faible intérêt, une petite graine par exemple, le rythme de l'appel va être lent. Démonstration.
Ah, ah, ah,
en poule, s'il te plaît.
Ah.
Excellent, merci, merci, excellent. Si la proie est d'un plus grand intérêt, plus riche en protéines, un vermisseau par exemple, le rythme de l'appel va s'accélérer. Démonstration. Excellent, merci. Ah
Question.
Arrêtez de courir. Oh. Et question qui se pose, hein. C'est pas possible, hein. Tu fais des poules, tout le monde s'agite. Question.
Quel est le cri de la poule qui vient de pondre un œuf?
Code, 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 Kodak.
En poule, s'il te plaît. Oh. De signaler la présence de son nid au prédateur. Mais il faut se remettre dans le berceau originel de la poule sauvage, dans la jungle de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le coq est loin. Dès qu'un œuf est pondu, il faut que la poule se signale. Pour que le coq se rapproche. Par son cri de ponte, la poule indique qu'elle est disponible. Qu'elle est prête à être fécondée.
Oh, attendez, oh.
La poule sauvage pond une douzaine d'œufs par an.
Deux.
Non.
12 œufs, des œufs.
La poule domestique, sélectionnée, pond jusqu'à 300 zygotes recouverts d'une coquille par an, par une alimentation hyperprotéinée et par une stimulation lumineuse intense.
La poule,
300 zygotes
par an. Asservie aux besoins alimentaires de l'homme qui en demande toujours plus de
dur.
De dur. Toujours plus de... De...
Mollet.
Il y a de la culture.
De mollet. De cocotte.
De coque, elle a dit.
De coque. Bon, de coque.
De quoi, de quoi,
de bon alors. De...
De omelette.
De omelette.
Ah oui, c'est vrai. Vous voyez, t'es avec nous ce matin en initiation.
Vous êtes fatigué, les parts, hein.
T'inquiète pas, hein.
De brouillé, de haut plat,
de
mimosa poché.
Allez,
à la neige.
De maillot,
très bien. Encore, deux, il y en a encore.
À la béchamel,
très bien.
Deux, la béchamel. Deux tomates, deux poivrons,
deux chocolats,
deux caponcelles, un peu de chocolat.
Question.
Combien un Français moyen mange-t-il d'œufs par an?
Deux.
Combien un Français moyen?
Bon, d'accord, ok. Bon, c'est combien alors? 100, c'est plus.
Plus.
C'est plus.
1000.
C'est moins.
Non.
Ça, c'est hypercholestérolémie.
C'est pas bien. Hein. Tu commences comme ça à cet âge-là.
250.
C'est
plus.
250. C'est pas loin. C'est un tout petit peu moins.
245.
Question.
D'abord, un indice.
Vous avez tous entendu et reconnu
qui souffle.
C'est bien, il n'imite pas que les oiseaux, mais qui le voit.
Pour éviter l'hospitalisation,
pensez à la vaccination.
Le vaccin anti-grippe.
Les plus gros consommateurs.
Le laboratoire Sanofi va incuber 182 500 000 œufs au mois d'août. 182 500 000 œufs, qu'on va mettre en couveuse pendant 10 jours. 10 jours à 42 degrés, et l'embryon de poussin va se développer. Au 10e jour, on perce la coquille, et on va injecter 3 souches du virus de la grippe humaine, de la souche Brisbane, californienne, et de Hong Kong. 3 jours après, le petit poussin est mort. On récupère les 182 500 000 œufs, on les explose, on les succute, et on va récupérer une mixture jaunâtre et sanguinolente qui va être transformée en dose de vaccin antigrippe. Et il faut 2 œufs pour faire un vaccin antigrippe.
Tu veux dire que ma grand-mère, elle s'injecte des poussins morts dans le bras?
Oui, et c'est remboursé par la sécurité sociale.
Remboursé? Non, poussins morts dans le bras.
Remboursé? Non, poussins morts dans le bras. Remboursé? Non, poussins morts dans le bras. Remboursé? Non, poussins morts dans le bras. Remboursé? Non, poussins morts dans le bras. Remboursé? Non, poussins morts dans le bras. L'homme qui murmure à l'oreille des œufs, c'est Konrad Lorenz, un Autrichien, un barbu, le premier à avoir parlé de l'imprégnation animale. Il faisait écouter sa voix à des œufs d'oie à quelques jours de l'éclosion, et les oisons, à la naissance, le reconnaissaient comme leur propre mère et le suivaient partout.
Enchanté, Konrad Lorenz.
Konrad Lorenz, le premier à avoir parlé de l'imprégnation animale tellement importante dans les vols de migration nocturne des oies cendrées. Lorsque les oies cendrées quittent la Suède, au mois de septembre, elles décollent, survolent le Danemark, la Hollande, la Belgique, la baie de Somme, bifurquent le lac du Der. Au loin, la vallée du Rhône.
Wow.
La Drôme.
Non. Non.
Vous avez tous reconnu. Ah d'accord.
La poule.
Non, la poule non.
Syrinx de Claude Debussy, 1913. Syrinx. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Syrinx? Non.
Non.
Syrinx est une magnifique nymphe. Le dieu Pan, mi-homme, mi-bouc, en tombe follement amoureux. Il lui déclare sa flamme au bord du fleuve Ladon. Il la poursuit, transi d'amour pour elle. Mais Syrinx implore ses sœurs naïades de la métamorphoser en roseau afin d'échapper à Pan. Soudain, il se précipite sur elle et n'attrape, paf,
qu'une poignée de roseau. Souffle dedans.
Ah, d'où la flûte de Pan.
Mais surtout la flûte Syrinx.
Aussi. Parce que la Syrinx, c'est l'organe vocal des oiseaux.
Comme le pharynx est l'organe vocal des humains.
Première leçon d'anatomie. La syrinx des oiseaux. Schéma numéro 1. La fameuse syrinx, située à la base de la trachée, de la taille d'une tête d'épingle pour l'oiseau-mouche. Sa taille peut aller jusqu'à la taille d'une balle de ping-pong pour le héron cendré. Schéma suivant. La fameuse syrinx, constituée d'une capsule cartilagineuse sur laquelle s'articulent de puissants muscles striés. Il va sans dire que c'est les modulations et les contractions de ces muscles striés qui vont permettre les modulations du chant. Schéma suivant. L'oiseau et ses réserves aériennes. Rendez-vous compte, 60% du volume d'un oiseau, c'est de l'air, avec ses deux poumons et ses 9 sacs aériens. Et cet air lui permet de s'alléger et de mieux s'envoler.
La vertu de la syrinx. C'est la loi de Béchamp. Est-ce que vous avez déjà entendu la loi de Chapelle? Elle expire. Elle inspire. Sans jamais arrêter de chanter. Elle chante. Elle chante. Sans jamais arrêter de voler. Soudain, on ne la voit plus. Et pourtant, on l'entend toujours. La respiration circulaire de la loi du sang
est la respiration circulaire de Guillaume Berceau.
Qui a sa syrinx qui n'est pas fonctionnelle.
Qui a une syringite, comme une pharyngite. Oui, c'est pareil. C'est
un oiseau, noir et blanc, comme un chien.
Noir et blanc, comme le chien. Un oiseau.
Un manchot.
Oh non, pas ça.
Le marabout.
Ça va, il n'y a personne.
Ça va, il n'y a personne à 3 mètres. C'est parfait.
Vous savez bien ça. D'accord ? Je dis à tout le monde, je ne pas manger ou pas le boire.
Stop ! Arrête ! Oh !
C'est désagréable avec les gens.
Elle a dit manchot, on l'a entendu.
Oui.
Mais c'est pas le manchot. L'oiseau qui a une syringite, c'est quoi ? Ah, je pose la question à toi, mais tu sais, non ? Ouais.
Ah. Non, c'est quoi alors ?
La pie.
La pie.
Ça vole une région où il fait bon vivre. Une région où des gens sont heureux, ils ont le sourire.
La Brôme.
Oh, ah, la Brôme.
Quelle raison de tirer la Brôme, là ?
Là, là ?
Il y a une lettre en commun.
Oh, la vache. Mais un oiseau qui chante pas, qui siffle pas. On est un festival.
Un oiseau noir et blanc.
Avec un bec orange qui ramène des bébés.
Oui, il a dit. La cigogne blanche.
Celui-là, il faut aller chercher quand même. Oh la vache.
La flûte enchantée en 1790.
1790 et demi.
Et on retrouve dans cet opéra un personnage célèbre, l'oiseleur Papageno, qui attrape des oiseaux.
Je suis Papageno et j'ai un petit oiseau.
Alors, tu vas nous montrer ton petit oiseau, Papageno.
Tourne-toi, non, mais ça va aller, tourne-toi. Écoute bien, écoute. Tu vas deviner.
Un bruit en zizi ? Un pipi de farlouze ? Un rouge que noir.
Non, écoute bien.
Oh, il est gay. C'est un pinson ?
Non, pas du tout. Il est triste, il est enfermé. Écoute. Le canard. Oh, pop. C'est qui ?
Il a dit.
Madame, j'ai fait deux
notes. Elle a dit.
Deux notes. Bingo. Voilà dedans.
La classe.
La classe, je vous l'offre.
Le blind test de la Drôme, elle reconnaît directement à deux notes le rouge.
Exactement, il est posé sur votre épaule.
Oh, beau gosse.
Magnifique. Hein.
Donc Papageno a attrapé un rouge-gorge.
Oui, attends, je me décolle. Oui, c'est bon.
Recolle-toi.
Ah, parfait.
Et l'espérance de vie d'un rouge-gorge en cage, c'est de moins d'une semaine. Non, à l'époque, pour élever un oiseau en cage, il fallait pouvoir le nourrir, il fallait attraper des oiseaux granivores. Et le prince des oiseaux de cage au XVIIe siècle, c'est le chardonneret élégant. Le chardonneret élégant va être détrôné
Allez-y, monsieur.
Par un oiseau attrapé sur l'île des Canaries,
oh,
qui va arriver en bateau en Europe, un oiseau, le serin des Canaries, qui a une caractéristique...
Il est jaune.
C'est qu'il a une très bonne mémoire et qu'il est capable très facilement d'apprendre des mélodies. Pour cela, on va utiliser un instrument qu'on appelle une serinette.
Protocole d'éducation musicale pour les serins
jaunes du canal.
Alors, vous l'avez reconnu, ouais. Le tube de l'été 1739.
C'était « Il était une berge ».
Thank you.
Quel est le symbole de l'amoureux éploré?
Le rossignol!
Si, hein?
Le rossignol! Regardez cet oiseau!
Regardez-le!
Regardez-le!
Il est moche?
Envergure 25 cm!
Il est 25 cm!
Rossignol Philomèle!
Rossignol Philomèle!
Lucinia Mégarincos!
Cet oiseau!
17 grammes.
17 grammes
à son arrivée en avril.
Oh, yo, 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 yo.
24 à son départ.
Il faut grossir, hein.
Un plumage terne. Un brin sans éclat. Regarde, morne. Il peut avoir une calotte grise, mais surtout, regardez autour de son bec.
Ça commence, ça.
Des petites vibrisses noires.
Ah, oh, t'en as en plus, c'est vrai.
Évite que les pattes des araignées lui attaquent les yeux lorsqu'il est saisi.
C'est lui.
Il est légèrement plus grand que le rouge-gorge, mais ne se tient pas aussi droit. Oui. Il est plus voûté. Ses pattes sont fines, malingres, et se terminent par des ongles crochus et noirs. Mais ce qui le caractérise, c'est sa queue d'un roux chaud qu'il bat au gré du vent, suivant son avis. Le rossignol Philomèle est aussi un grand migrateur. Le spécialiste des rossignols...
C'est moi. Ah oui, c'est moi. Le spécialiste des rossignols. C'est lui.
Vous avez reconnu le chant du rossignol? Ça, c'est le mâle qui émet ce chant. Et le chant du rossignol mâle se décompose en deux parties. La première partie, ce sont des sons tenus. Le rossignol se présente, c'est comme sa carte d'identité. Démonstration. Je suis un rossignol et toutes les femelles qui se poseront dans mon arbre devront s'accoupler avec moi. Merci. La seconde partie, ce sont les trilles. Les trilles, c'est la carte... Non, c'est le curriculum vitae du rossignol. Le curriculum vitae. Le rossignol indique par le nombre de trilles son âge. Moins de 12 trilles, c'est un mâle de moins d'un an. Démonstration. Merci. Entre 12 et 18 trilles, un mâle de 2 ans. Démonstration. Merci. Entre 18 et 24 trilles, un mâle de 3 ans. Démonstration. Merci. 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 Chez les rossignols, c'est 6 ans. Là, t'es mort.
Ben, j'ai 37 ans.
Dans 2 ans, tu peux être président.
Président des rossignols.
Le président des rossignols, c'est un Suisse, Valentin Amrhein. Et c'est le premier à avoir déterminé que chez les rossignols, il y avait un sexe ratio disproportionné. Par exemple, chez toi, le sexe ratio, il est combien?
Non, oh, je sais pas, moi. 10, 15, pas plus.
Chez les rossignols, le sexe ratio, il est en faveur des mâles. Il y a 3 fois plus de mâles que de femelles. 3 mâles pour 1 femelle. Les femelles ont donc le choix, les coquines. Rappelez-vous, vos années scolaires, les classes de garçons, on rigolait bien.
Il y a plus un bruit, là.
Mais nous, les mecs, on ne chopait pas grand-chose. Eh bien, chez les rossignols, comment on va se faire le choix? Comment les femelles rossignoles vont-elles choisir en priorité leur mâle?
En me choisissant moi. Bibi, l'éloquence, l'intelligence, l'impertinence. Mesdames, pour vous servir, je suis prêt à tout.
Non. Les femelles de rossignoles vont choisir l'expérience.
Hein?
Parce qu'un vieux mâle de rossignol qui a fait 5 ou 6 fois l'aller-retour, Congo dit.
Congo,
dit
Congo,
dit Congo,
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 dit Congo. Bon, bref,
ben, c'est de la bonne cam.
Ah, tu as compris, redis. Non, allez, allez, non, non. Tu une autre ville parce que c'est compliqué.
Ouais, c'est vrai, compliqué. Bon, bref, un rossignol qui a fait 5 ou 6 fois l'aller-retour. Une ville sympa, Valence.
Ah,
ils sont gentils. Valence Congo, Congo Valence.
Voilà.
C'est génétiquement de la bonne canne. C'est génétiquement optimal. Et donc les femelles de rossignol vont donc choisir en priorité les vieux. Qui se sont fait vacciner avant, bien sûr.
C'est vous voulez saboter le spectacle, madame? Eh bien, c'est réussi. On n'a rien entendu.
Que vont-elles choisir? Chez les rossignols, c'est l'amour de l'expérience. Chez les rossignols, plus t'es vieux, plus t'es amoureux.
Plus tu vieillis, plus t'es sexy.
Vas-y, papy.
Vas-y, papy, c'est bon.
De l'abîme des oiseaux, c'est ça?
Un extrait de l'abîme des oiseaux.
Ornitho-compositeur, en fait, c'est simple. Olivier Messiaen se baladait dans les jardins, allait écouter la nature, il écoutait les oiseaux, il avait son petit calepin, il écrivait sur son petit calepin ce qu'il avait entendu, il rentrait chez lui, hop, il retranscrivait ce qu'il avait entendu avec le piano de sa femme. Conte de l'histoire. Sa femme s'appelait Yvonne Loriot. Monsieur Messian. Monsieur Messian. Monsieur Messian, allez voir. Vous voyez là-bas les peupliers? Grand peuplier. Il y a un oiseau tout jaune. Vous voyez ou pas? Je suis pas sûr que vous le voyez. Écoutez. Dolido, Dolido. Dolido, Dolido. Pas mal.
Tu t'es entraîné?
Viens, 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 viens. Dolido, Dolido. Pas mal.
Dolido, Dolido.
Viens voir, viens voir. Un pic vert. Un pic vert. Attention, saccadé. Saccadé. Pas mal. Plus d'attaque. Bien, plus d'attaque encore. Staccato, staccato, le pic vert, le pic vert. Le pic vert. Faites pas bien. Ne bougez plus. Restez là, restez là. Restez là. Mais va, mais là, doucement, doucement, faites pas de bruit. Arrêtez de faire du bruit là. Il va s'envoler. Vous voyez les fleurs noires là? Les oiseaux noirs et blancs. Pas des manchots. Hein. Ne trompez pas. Non, 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 je connais. Le trépied, le bec rouge. Tant pis, 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 tant pis. Allez-y. C'est entré dans la nuit. La chouette, tu l'as. Venez de rêver, monsieur Messian. Réveillez-vous. Non. Stop, 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 stop. Question.
Qu'est-ce qu'un mimologisme?
Très bonne question.
Excellent, c'est moi qui la pose.
Qu'est-ce qu'un mimologisme?
Alors?
Des petites phrases que les grands-parents souvent transmettaient à leurs petits-enfants pour retenir un chant d'oiseau.
Là, le païtédette. C'est le chant de la caille des blés.
Le cultivateur entendait au mois de juin, lorsque l'oiseau arrivait en France, ce bruit, paye. Et il avait l'impression d'entendre son créancier, son banquier, paye, qui lui devait payer les
paye.
C'est bon! J'ai plus de billets, je suis fauché! Ça, c'est le chant de la griffe musicienne. Elle répète. T'as oublié de faire la voix de ta grand-mère qui s'injectait deux fois dans le bras. Si petit, si petit, si petit. Bon, le père et la mère, huit en tout, on a compris. Hein.
C'est cool, je vais parler de ma grand-mère.
Dis. 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 Bah dis-le moi. Ça c'est le chant du pinson des arbres.
La reconnu. La femelle.
Elle est reconnue.
La femelle. Fais un peu la femelle, tu fais jamais la femelle.
Je comprends mieux pourquoi je l'ai fait. Attention, mesdames et messieurs. En direct, ce soir, la femelle de Passon des Arbres. Bon, revenons à nos oiseaux.
Eh bien, depuis 1971, on sait que chez les pinsons des arbres, il y a des dialectes. Le pinson du Nord, il va chanter « Dis-le-moi, si tu m'aimes pas, dis-le-moi. »
Normal.
Le pinson du Sud-Ouest, lui, va rajouter une petite phrase à la fin. Démonstration.
C'est le conte du Sud. Chaque fois à la fin de phrase, je dis con.
Le pinson du sud-est, en dessous de la Drôme, il va tronquer son chant à la fin. Démonstration.
Oh, tranquille, ça c'est pour un
bébé. Te prends pas la tête, hein. On le fait demain, ça.
Oh. Ça, on sait ça depuis. Depuis 1971. Alors la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'une personne va choisir son pinson?
Ah ben, sur un site de rencontre. Sur Adopte un pinson
pour mais pas du tout. Non, pas comme ça. Non, elle va le choisir en fonction du dialecte. En fait, c'est très simple. Une personne qui est née dans un champ avec un mâle de pinson qui chantait le Nord va toujours s'accoupler avec un mâle de pinson qui chante le Nord. Une personne du Sud-Ouest va s'accoupler
avec le Sud.
Ouest.
Ouest. Ouais, je suis
sud-est moi, avec un mâle du sud-ouest. Vous suivez?
Ouais, jusque-là je comprends tout.
Ça, c'était jusqu'à ce qu'il y a 2 ans, les chercheurs allemands découvrent le gène de Casanova qui code pour l'infidélité féminine. Oh. Et chez les pinsons, on est surexprimé ce gène. Je vous explique. Au petit matin, lorsque le mâle chante au-dessus du nid, son chant sert à délimiter un territoire et aussi à transmettre son chant à ses enfants. Ses fils apprendront le chant et les filles apprendront à reconnaître le bon dialecte, le bon accent. Seulement, grâce aux Allemands, on a découvert, avec des petites balises Argos, des petites balises sur la queue des femelles, que lorsque le mâle était occupé, elles allaient tromper leur mari officiel avec un mâle qui a le dialecte le plus éloigné dans les 10 km autour.
Oh les coquines.
Finalement, le père, le mari officiel, va être le père que du premier œuf. Les autres œufs seront fécondés par d'autres mâles. Mais l'honneur est sauf, puisque le mâle transmettant son chant, tous les petits chanteront comme lui. Vous suivez jusque-là?
On a compris, moi.
C'est une embrouille, ton truc, là.
Et donc, la personne va poser la question essentielle de la paternité. Mieux vaut-il transmettre ses gènes ou transmettre sa culture? Oui, parce qu'en faisant ceci, elle assure un brassage génétique optimal tout en assurant une transmission du dialecte familial. Donc, elle pose la question. Mieux vaut-il faire voler la plume d'un oreiller ou donner à l'enfant la plume pour qu'il trace sa vie?
Thank you.
Des pigeons se bécoter, n'est-ce pas?
Oui, ce sont des oiseaux d'une fidélité sans faille.
Le mâle construit pour la femelle le nid, petite brindille par petite brindille par petite. Jusqu'au jour où le mâle sombre dans une folie furieuse. Il se retourne vers la nuque de sa partenaire avec une frénésie violente. Démonstration !
Et 24 heures plus tard, une magnifique petite perle blanche siégera au fond du nid. Un œuf.
Ce comportement du mâle s'appelle la chasse à nid. Il est indispensable que le mâle pigeon tape sur l'axe hypothalamo-hypophysaire pour déclencher une sécrétion d'ocytocine qui provoquera l'ovulation, donc la ponte.
Et après, il arrête de frapper sa femelle.
Une journée de trêve, et 24 heures plus tard, il retape dessus pendant 24 heures. Et 48 heures plus tard, dans le nid, un deuxième œuf.
Ah bon ? Il n'arrête jamais.
Si. Après, il le couvre pendant 17 jours. Mais il est indispensable que le mâle tape sur la femelle pour qu'elle pondre. Évidemment, chez les pigeons, qui est très rare chez les oiseaux, le mâle s'occupe autant des tâches ménagères que la femelle. Et le pire qui pourrait arriver à une femelle, c'est qu'un mâle la trompe. Comment prouver à sa femelle une fidélité sans faille autrement qu'en le tapant dessus pendant 24 heures d'affilée? Eh bien, chez les pigeons, c'est ce comportement qui a été sélectionné.
Ça va très bien.
Balance ton pigeon.
Balance ton pigeon.
Mais balance ton pigeon!
Après, ils se referont des bisous, hein. Ils se rebecoteront sur les bancs publics, ils se referont des baisers.
Ce ne sont pas des bisous. Ce sont des vomissures. Le mâle régurgite dans le jabot de la femelle le contenu stomacal de la journée afin de lui prouver qu'il est capable de gaver les futurs jeunes. Démonstration !
Oh, la
il y a 10 000 espèces d'oiseaux sur Terre. Enfin, 9 900, car 100 espèces ont disparu du globe le siècle dernier. 9 900 espèces, 9 900 cris, 9 900 parades, 9 900 stratégies, partout, sur tous les continents.
Depuis notre petite enfance, ces chants d'oiseaux nous accompagnent. Ils nous ont rendus heureux, curieux.
Les transmettre nous paraît essentiel.
Profitez. Il y a encore des oiseaux à l'horizon. Invitez-les au creux de votre oreille.
C'est vraiment extraordinaire, Annette.
C'est fabuleux, Jean et Johnny, ces chanteurs d'oiseaux. C'est, on va plus écouter les oiseaux de la même façon. C'est tout ce qu'ils ont pu transmettre.
Trois artistes, parce qu'avec le saxophoniste aussi.
Bien sûr.
Une éloquence tous les trois, une complicité avec le public, un public nombreux ce soir. Nombreux ce soir dans le cadre du Festiwai. C'est magnifique. Et j'espère qu'on aura encore l'occasion de voir ces deux chanteurs d'oiseaux, peut-être dans un autre registre. En tout cas, c'est magnifique, Annette.
C'est une chance, chers auditeurs, s'ils passent pas loin de chez vous, chanteurs d'oiseaux, ne les ratez pas.
C'était une belle voix en expansion, une voix en expansion. À très bientôt, chers auditeurs, pour d'autres rencontres, et notamment avec des gens extraordinaires que nous avons rencontrés au Festiwai et qu'on vous présentera dans d'autres émissions, Annette.
Tout à fait, merci à vous
tous. Allez, merci, bonne écoute.